Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Vous êtes avec nous pour une émission spéciale Noël, ce qui implique un blind test spécial Noël. Donc il faudra deviner le titre de 5 films qui se déroulent à la période des fêtes de Noël, évidemment. Alors Manu, quel est le programme?
Je vais vous parler de The Call, une production Netflix horrifique venue d'Asie.
Et toi, Guillaume?
Alors je vais vous parler de L'incroyable histoire de l'île de la Rose de Sydney Sibilia.
Quant à Marine, elle reviendra sur le parcours de Kim Ki-duk, puisque le réalisateur sud-coréen est décédé ce mois de décembre. Et justement, nous allons en Corée pour un film horrifique qui est diffusé actuellement sur Netflix.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Souvenez-vous de Your Name, l'excellent manga animé de Makoto Shinkai qui narrait le destin extraordinaire de Mutsaha, cette adolescente de la campagne qui entretenait une correspondance à des années d'écart avec un adolescent, Tolki, lycéen travaillant dans un restaurant italien. Eh bien, The Call, c'est un peu le versant sombre de l'excellent teen movie japonais. Sombre, ce n'est pas peu dire, tant les scénaristes ont détourné un concept idéal de comédie romantique fantaisiste pour le transformer en un film terrifiant opposant deux âmes tourmentées. Alors, Seo Yeon est une jeune femme de 28 ans, encore sous le choc du décès accidentel de son père quand elle était jeune. Solitaire et introvertie, elle ne se remet pas de cette tragédie dont elle incombe la responsabilité totale sur sa mère. Elle retourne des années plus tard dans la maison familiale où a eu lieu le drame. Alors, un jour, elle reçoit un appel téléphonique. Rapidement, elle se rend compte que quelque chose cloche, que la personne au bout du fil provient du passé, soit 20 ans en arrière, en 99. Une faille temporelle l'amène à entretenir une correspondance avec Jung-suk, une femme enfant introvertie et instable qui va se révéler beaucoup plus dangereuse que prévu. La vie de Seo Yeon prend un tournant, comprenant que les événements présents peuvent être bouleversés en fonction des décisions de Jung-suk. En dire davantage serait un crime dommageable, tant ce premier long-métrage du coréen Chung Yun-lee s'avère riche en rebondissements et surprises narratives. Production Netflix venue de Corée, The Call, à ne pas confondre avec le navet de Brian Anderson, impressionne dès ses premières images par la maîtrise formelle dont fait preuve le cinéaste débutant. Il parvient à capter l'attention du spectateur grâce à ses plans majestueux baignés dans une sublime lumière. Un parfum gothique s'insinue dès que l'héroïne franchit le palier dans la demeure abandonnée. Le soin apporté au décor, les clairs obscurs accentuant la solitude de l'héroïne, la précision maniaque des cadrages et les amples mouvements de caméra jamais gratuits, toujours au service d'un récit asphyxiant, nourrissent un scénario déjà excitant en diable.
Oh, c'est bien net. C'est trop bien net.
Chung Yun-lee raconte au fond, à travers le portrait glaçant de deux êtres marqués par la souffrance, l'éternel combat du bien et du mal, la lutte acharnée du yin et du yang. Alors l'une étant la part sombre de l'autre. La réussite du film tient aussi à la sensibilité d'un scénario qui ne présente pas le personnage maléfique comme un monstre dénué d'affect. Au contraire, Jung-suk commence même par faire le bien, mais son déséquilibre mental, présenté comme héréditaire et irrévocable, l'amène néanmoins à basculer de l'autre côté du miroir. La qualité exceptionnelle de l'interprétation, notamment de l'excellente Yong Seo-joon, méconnaissable après avoir envoûté les spectateurs dans Burning, élève ce thriller horrifique teinté de science-fiction très au-dessus des productions Netflix habituelles, au point de se demander si un tel film n'aurait pas mérité une sortie en salle. Alors tendu et efficace, égrené d'idées visuelles ébouriffantes grâce à d'excellents effets spéciaux et toujours au service d'une invention narrative permanente, The Call rate l'excellence absolue à cause d'un twist ultime, inutile et surtout pas très cohérent. Dommage. On a frôlé, je dirais, le chef-d'œuvre, mais en l'état, il s'agit certainement du meilleur film d'horreur vu depuis des lustres. Un exercice de style parfait qui manque peut-être parfois un petit peu de personnalité derrière la, je dirais, une vraie beauté visuelle, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un premier long métrage d'un jeune metteur en scène d'à peine 30 ans.
Et qu'on verra peut-être un jour au cinéma quand les salles rouvriront. En fait, c'est plutôt bien que ce soit sur Netflix finalement.
Ça m'étonnerait parce que c'est une production Netflix. Oui. Ah oui, mais on verra d'autres films du réalisateur. Oui. Je ne peux que le souhaiter.
On quitte Netflix Corée du Sud pour rejoindre cette fois-ci les productions de Netflix Italie. Et c'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Comme son nom l'indique, l'incroyable histoire de l'île de la Rose est à peine concevable, surtout en ces temps de restrictions extrêmes et de morosité mondiale. Ajoutons qu'il est important de préciser que cette histoire est bel et bien basée sur des faits réels, et vous aurez sûrement compris pourquoi le film rencontre à l'heure actuelle un gros succès sur la plateforme de streaming qu'il héberge. Mais qu'en est-il ? Le film de Sidney Sibilia s'intéresse à un parcours de vie peu commun, celui d'un ingénieur lunaire du nom de Giorgio Rosa. Plus qu'un rêveur, Giorgio est un doudingue. On comprend très vite qu'à travers ses inventions, il ne se soucie pas d'appartenance ou d'une quelconque forme de restriction administrative ou gouvernementale. Le long métrage n'a pas commencé depuis 10 minutes qu'on apprend qu'il a été arrêté après avoir fait un vol illégal au sein d'un avion de sa composition et qu'il en est de même pour son projet de fin d'études, une voiture qui marche bel et bien mais qui n'a rien d'homologué, ce qui va attirer forcément la colère des carabiniers. Alors, subissant les brimades de ses différents supérieurs ou des autorités, Giorgio mène comme il peut son petit chemin d'existence jusqu'à perdre la femme qu'il aime, lassé de son excentricité et de sa vision de la vie. Un jour, comme Philippe Petit, dont l'histoire va être retracée dans le chef-d'œuvre de Robert Zemeckis, The Walk, Giorgio va avoir une vision qui ne va avoir de cesse de le hanter jusqu'à ce qu'il puisse lui donner vie. Cette vision, c'est celle d'un endroit qui pourrait échapper à toute forme de contrôle et qui aurait sa propre indépendance. C'est bien beau tout ça, mais comment on fait, Capitaine ? Eh bien, il s'agit tout simplement de construire son propre pays.
Questa l'isola che ha costruito ?
Si.
Cet endroit va prendre la forme d'une île, d'abord son nom, puis qui va bénéficier de celui de son inventeur, Rosa, la Rose. Cette île serait en fait une plateforme construite au large de Rimini, à 500 mètres au-delà des limites de l'État italien, et donc en plein dans les eaux internationales. Ce qui semble être un pari fou va devenir réalité grâce à l'appui d'amis fidèles et de nouveaux venus, de quelques magouilles et de pas mal de débrouilles. Assez vite, le bruit va courir que cet îlot de liberté, dans tous les sens du terme, est accessible et va attirer autant la curiosité des gens du monde entier venus faire la fête que les autorités les plus proches, l'Italie et bien sûr le Vatican, beaucoup plus conservateurs sur la question. Si pour les premiers, c'est un sas de décompression propice à l'éclat et à l'évasion, pour les autres, c'est une défiance envers l'ordre et la morale qu'il va falloir faire fermer. Mais voilà, lorsqu'un rêveur a goûté à la liberté absolue et qu'elle lui permet de vivre enfin sa vie telle qu'il entend la mener, il ne va pas lâcher aussi facilement le rêve qu'il a réussi à rendre concret et va enfin s'affirmer aux yeux du monde en contestant toute tentative de musellement. Son combat pour un État libre indépendant ou l'établissement de la République de la Rose libre va l'amener jusqu'aux portes du Conseil de l'Europe à Strasbourg pour défendre son projet après avoir écrit à l'ONU. Et parmi les gradés assez circonspects qui vont s'allier à sa cause, on reconnaîtra une figure bien connue de chez nous, notre François Cluzet national. Comme Giorgio le dit si bien, cet événement de l'île de la Rose arrive au bon moment. L'année 1968 est riche en luttes diverses. Et même si les habitants de l'île ne savent pas grand-chose des émeutes de mai 68, sauf que les Français étaient dans la rue et qu'ils avaient mis le feu à Paris au nom d'un monde meilleur, eux avaient réussi à construire un monde meilleur sans violence et avec leurs propres mains. Ce qui était considéré comme étant une discothèque flottante au départ va faire se poser d'importantes questions à l'entourage de Giorgio et au monde. Sommes-nous vraiment libres ? Et si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous le devenir ? Le fait qu'ils reçoivent des centaines de demandes de citoyenneté d'un peu partout dans le monde semble être un début de réponse. L'une des plus belles et révélatrices scènes de ce récit utopique concerne le père de Giorgio, qui ne comprend d'abord rien à cette île. Viré de son travail car il est jugé non conforme aux valeurs de l'entreprise, en fait, c'est une pression du gouvernement italien qui vise directement Giorgio. C'est là qu'il comprend la valeur du geste de son fils et lui conseille de ne pas baisser les bras face à ces gens malhonnêtes. C'est ce qui motivera Giorgio à aller jusqu'au Conseil de l'Europe où il obtiendra une audience après y avoir passé pas moins d'une semaine dans le hall. Alors Giorgio, hein, c'est un peu l'homme qui voulut être roi de John Huston. Hein. À un moment donné, il s'introduit dans un cinéma pour avertir son aimé, hein, en pleine séance de la Nuit des Morts Vivants. Si le message n'est pas clair, hein, vous passerez néanmoins un excellent moment, car le titre a la bonne idée de traiter de son sujet improbable avec beaucoup d'humour et une bande-son d'époque, forcément, hein, du tonnerre avec Shocking Blue, The Jimi Hendrix Experience ou les Kinks. Alors c'est drôle, mais les cartons de fin ne manqueront pas de vous rappeler que tout cela était vrai et que l'utopie de Giorgio a eu un impact bien réel sur le monde. C'est peut-être ce que Netflix a à offrir de plus chouette à ses abonnés pour Noël, et il ne serait pas impossible de rêver que le film pourra avoir une influence plus que positive sur l'esprit des plus jeunes spectateurs. Après tout, la tenue du Père Noël est rouge, hein, c'est donc une bonne époque pour commencer une révolution.
On rappelle le titre de ce film qui vient de Netflix Italie.
L'incroyable histoire de l'île de la Rose.
C'est la période des fêtes. On a eu l'idée de faire un blind test spécial avec des films où il est question de Noël. Il y en a une ribambelle, comme on dit. Vous avez sans doute une petite liste dans votre tête. Eh bien, vous avez quelques secondes pour vous concentrer. C'est parti.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test. Et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
5 extraits de films qui se déroulent à Noël, un peu avant, un peu après, peu importe. Allez, premier extrait.
Il me le faut, il est absolument incroyable. Ce que je vais faire, je vais vous en donner $100.
Non.
Écoutez, il me le faut. Ce sera le cadeau de Noël de mon fils. C'est exactement ce que j'ai cherché partout. Je vous en donne $200. C'est une somme de $100.
Vraiment désolé. Pourquoi ? Mais pas à vendre.
Je croyais que dans le magasin de ton grand-père, tout était à vendre.
Mais grand-père !
Avec Mogwai, arrive beaucoup de responsabilités. Je ne veux le vendre à aucun prix.
Alors, ça a été trouvé, Guillaume.
Oui, c'est Gremlins de Joe Dante.
Film de 1984, il met en scène les Gremlins, des petites créatures malfaisantes qui ravagent la ville fictive de Kingston Falls. Et donc, il y a trois règles qu'on va redire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les Gremlins ?
Il ne faut pas les nourrir après minuit, il faut pas
leur mettre de l'eau.
Oui. Et ne pas les faire boire. Il ne faut pas mettre de l'eau sur eux, ne pas les faire boire et surtout ne pas les faire manger après minuit. C'est 3,5 millions d'entrées en France. Voilà, c'est, je crois, le plus gros carton de ce blind test. Deuxième extrait.
C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure dans le monde des fêtes, présentes et futures. Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes ? Non ? Alors suivez-moi, voici l'entrée secrète.
Donc ça a été trouvé, Guillaume.
Oui, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack d'Henry Selick.
Oui, adapté de l'histoire originale de Tim Burton. Et c'est un film de 1994. Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloweenville, s'ennuie et depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête d'Halloween qui revient chaque année et il rêve de changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël. En France, c'était 703 000 entrées seulement. Nouvel extrait de ce blind test où, je vous le rappelle, il faut trouver des films où il est question de Noël.
Je vous présente Terence, c'est lui qui dirige.
Monsieur le ministre.
Ah, cher monsieur, j'ai eu un oncle qui s'appelait Terence. Je le haïssais, c'était un gros pervers. Mais en ce qui vous concerne, j'ai un excellent feeling.
Oh, excellent.
Pat.
Bonjour, Pat.
Monsieur le ministre, je suis votre gouvernante.
Ah, bien. Ce sera plus facile avec moi qu'avec le lot précédent. Pas de couche-culotte, pas d'ado, d'épouse hystérique.
Et voici Nathalie, nouvelle, comme vous.
Enchantée, Nathalie.
Ravie, David. Monsieur le ministre. Merde, comment j'ai pu dire ça? Et en plus, j'ai dit merde. Deux fois de suite. Oh, monsieur, toutes mes excuses.
C'est pas grave, voyons. Vous auriez dit putain, là, nous aurions été dans la merde.
Ça, c'est vrai. J'avais le pressentiment que le premier jour, j'allais merder comme une conne. Oh là là. Oh putain.
Ça a été trouvé. Tu as le titre, Guillaume.
C'est Love Actually.
Et toi, Manu, tu as le nom du réalisateur.
Je crois que c'est Richard Curtis.
C'est ça. C'est un film sorti en salle en 2003. Différents aspects de l'amour montrés à travers 10 histoires distinctes impliquant un large éventail de personnages dont beaucoup sont reliés entre eux. Et l'action de Love Actually commence 5 semaines avant les fêtes de Noël. Se déroule à Londres et ça va jusqu'à Noël. Et après, il y a un épilogue qui se déroule un peu après, je crois. Il y a un sacré casting. Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth et Emma Thompson. Notamment près d'un million d'entrées en France. Quatrième extrait de ce blind test.
Je trouve pas ça très convivial un buffet le soir de Noël, non ? Car des tests. En plus, je connais papa, il va se mettre dans un coin.
Mon mari vient de crever, vous n'allez pas me faire passer Noël avec ce vieux con ?
Écoute, maman, papa aussi, il est tout seul. On va pas le laisser tout seul le soir de Noël parce que Jean-Louis est mort.
C'est vrai que claquer un décembre, c'est pas un bon timing, hein. Alors écoute, Sonia, ça va. Il y a déjà assez de problèmes dans le monde pour pas se faire encore plus chier avec Noël. Et où et avec qui et pour qui?
Et pour les enfants, déjà.
Les tiens, ça fait un moment qu'ils croient plus au Père Noël, non? Et à quel âge, Arthur?
Ça n'a rien à voir. Noël, c'est un symbole, c'est la fête, c'est la réunion, enfin, le monde entier.
Merde, mon cours de russe! J'ai oublié de prévenir mon élève.
C'était trouvé, Guillaume.
C'est La Bûche de Daniel Thompson?
Sorti en 1999, et là on entend quatre actrices. Il y avait Sabine Azéma, Emmanuel Béart, Charlotte Gainsbourg et Françoise Fabian. C'est Noël, sonne l'heure de vérité. Hein, pour trois sœurs, Louba la chanteuse, Sonia la bourgeoise, Mila la rebelle, pour leurs parents aussi, Stanislas qui est violoniste, Zigane à la retraite, et Yvette, veuve toute récente de son deuxième mari. 1,6 million d'entrées pour cette comédie en France. Dernier extrait de ce blind test extrêmement facile.
Gardez votre calme. C'est un simple petit décalage dans l'horaire, mais l'intervention de la police était inévitable. Et je dirais même nécessaire. Donc, laissons ces messieurs faire leur cirque dehors et restons calmes. Les choses ne font que commencer. Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio jusqu'à...
Oh, je suis vraiment désolé, Hans. Je n'ai pas reçu ce message.
Vous auriez dû faire une note de service. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Carl et Franco, vous vous sentiriez un peu seuls, alors je viens vous distraire.
Comment est-ce qu'il peut savoir ?
Alors, c'est évidemment trouvé parce que c'était extrêmement facile.
C'est Piège de cristal, John McTiernan.
Sorti en 1988 avec la voix française de Bruce Willis. Évidemment, le film met en scène un officier de la police de New York, John McClane, qui, venu rejoindre sa femme pour les fêtes de Noël, eh bien, se retrouve enfermé avec un groupe de terroristes qui investit une tour. Voilà.
Et la tour de la 20th Century Fox, qui a servi de tournage pour le film. C'est pour ça qu'ils ont pu tout faire péter en plein centre-ville.
D'accord. Eh bien, ça, c'était la bonne anecdote, sans doute compris dans le bonus DVD ou je ne sais quoi.
DVD Blu-ray sort régulièrement.
Oui, voilà. Que l'on conseille à tous. Ainsi s'achève eh bien, ce blind test spécial film où il est question de Noël.
This is Cinerama.
Le film est sorti à peu près en même temps que Tenet à la fin de cet été, Voir le jour, film de Marion Lenne qui se déroule dans une maternité, sorti en DVD depuis le 1er décembre.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinerama.
Eh bien... Oui, je crois que oui.
Ah, c'est un beau bébé, hein.
Je pensais pas que c'était comme ça, un accouchement.
Impressionnant, hein.
Ouais. Et vous, c'était comment votre accouchement ?
Je sais plus.
Raconter la vie d'une maternité dans une fiction à travers le parcours d'une auxiliaire de puériculture interprétée par Sandrine Bonner, tour à tour sombre et rayonnante, c'est le pari de Voir le jour, film de Marion Lenne, quasiment exclusivement porté par des personnages féminins et donc des actrices. Alors il semble que cette exposition de la naissance au cinéma soit rare, hein, et on se félicite que Marion Lenne se soit emparée du roman Chambre 2 de Julie Bonny. Celui-ci est le témoignage d'une auxiliaire de puériculture qui a eu une carrière de chanteuse. Et c'est précisément le parcours de Jeanne dont le passé, d'abord secret, nous sera dévoilé à la faveur d'une réapparition. Mais ce qui importe ou ce qu'on préfère retenir de Voir le jour, c'est la chronique sociale. Alors il y a toute une partie du film qui nous place au sein d'une maternité à Martigues. On y voit le rôle de chacune des employées, la hiérarchie, leur responsabilité aussi au détour de la mort d'un nouveau-né qui frappe le service. On y voit l'attention portée aux autres du service, pas seulement les enfants, mais aussi les mères. Alors c'est d'ailleurs davantage le souci de Jeanne, hein, dont une de ses collègues explique qu'elle est plus proche des mères que de leur progéniture. Alors il est aussi question du manque d'argent, de moyens, de sous-effectifs, à peu près tout ce qu'on a entendu ces derniers mois sur le milieu hospitalier. On ne sera pas dépaysé de ce point de vue-là. Un regard est apporté plus particulièrement sur la hiérarchie et les enjeux de pouvoir. Là, le chef de service, un médecin obstétricien homme, en prend pour son grade. Alors, une vision radicale dans un film, comme je l'ai dit, quasiment exclusivement féminin.
T'es au courant ?
De quoi ?
Il a survécu, mais l'autre pas.
T'avais pas lu son dossier ?
Bon, Marie-Claude, tu sais comment c'est quand même.
Ouais, je sais. C'est Sylvie qui était de garde ?
Oui, c'est elle, oui.
Il a raison de porter plainte, parce qu'il y en a marre de ces conditions. De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui leur sers de bouc émissaire, donc...
Alors ? Bon, ça va, depuis le temps que tu travailles, t'as l'habitude, non ?
Non, je m'habitue pas.
On est toujours en sous-effectif et ça, vous vous en foutez. Vous
n'êtes pas syndiqué, que je sache. C'est toujours rester à l'écart, alors continuez comme ça, c'est mieux.
Je crois pas, non. Ils portaient encore des couches que moi, je mettais déjà des bébés au monde.
Oh, Jeanne, il y a un mec là en bas à l'accueil qui cherche une Norma, il dit qu'elle travaille ici.
Mais Voir le jour ne se contente pas de nous plonger dans un service de maternité avec ses bonnes et mauvaises nouvelles, hein. Il nous replonge aussi dans la vie de Jeanne, de quoi comprendre comment elle se retrouve à élever seule sa fille qui va bientôt, à 18 ans, quitter le nid. Alors, on quitte la chronique sociale pour le récit intimiste. Ce n'est pas ce qu'on retiendra finalement de Voir le jour, même si la réalisatrice qui suit ainsi le roman tente de séparer formellement les deux récits. Alors tout ce qui se passe au sein de la maternité est filmé sobrement et repose sur le jeu des comédiennes, tandis que ce qui découle de la vie de Jeanne, impeccable Sandrine Bonner, au visage lumineux, est l'occasion pour la réalisatrice Marion Lenne d'oser transgresser les formes avec notamment des récits emmêlés, des images oniriques. La pilule passe bien mieux ainsi. Alors naissance d'un côté, renaissance de l'autre, la vie qui apparaît et puis de l'autre le sens qu'il faut y trouver malgré toutes ces années, c'est un peu le fil conducteur de Voir le jour qui fait le choix de ne pas nous enfermer dans un service de maternité avec ses moments de tension et de joie. Le casting, je l'ai déjà dit, donc est impeccable, hein, entre Sandrine Bonner, Brigitte Rouen, sage-femme luttant contre les cadences infernales, Sarah Stern, vue dans Les Tuches, et Kenza Fortas, révélée dans Scheherazade. Voir le jour est disponible en DVD depuis le 1er décembre.
C'est pas parce qu'on fait ça par vocation qu'on doit être payé minablement. Donc ce soir, il faut décréter la grève.
Enfin, attention quand même, parce que c'est peut-être l'heure de l'apéro, mais c'est pas un shaker.
Le réalisateur coréen Kim Ki-duk est décédé ce mois de décembre. C'est l'occasion pour Marine, qui est toujours confinée hein, depuis le début de cette saison, de nous parler de ce grand réalisateur.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Emporté par le Covid à 59 ans, Kim Ki-duk, l'un des réalisateurs sud-coréens les plus emblématiques, laisse derrière lui une filmographie fleuve longue de 25 films, fascinante, mais également le souvenir d'une personnalité plus que controversée. Retour sur une vie hors norme et une œuvre foisonnante. Difficile de séparer l'artiste de son œuvre dans le cas de Kim Ki-duk, dont l'incroyable et difficile parcours a, à coup sûr, bien plus influencé ses films qu'une quelconque école de cinéma. Et pour cause, contrairement à ses pères, Park Chan-wook, Hong Sang-soo, Bong Joon-ho, Kim Ki-duk était autodidacte. Né dans l'indigence d'un père violent traumatisé par la guerre et d'une mère souffrant de cécité, il sera plongé très tôt dans le monde du travail, plus précisément dans le domaine de l'agriculture, puis à l'usine, puis s'enrôlera dans l'armée avant de finalement tenter de devenir prêtre. Il deviendra ensuite artiste-peintre à Paris, où il découvrira, sur le tard, donc, le 7e art. Sa carrière de cinéaste commence réellement dans la seconde partie des années 90. Les années 2000 signeront ensuite sa consécration grâce aux films Adresse inconnue, Bad Guy, Printemps, été, automne, hiver, printemps ou encore Samaria. Kim Ki-duk devient un habitué de la Mostra de Venise, un festival par ailleurs qui restera toujours fidèle à ce réalisateur qui a toujours été relativement mal aimé en son propre pays, désavoué par les critiques, boudé par le public, bien avant que des scandales n'entachent la fin de sa vie. Des films de la décennie 2000, on peut sans mal voir émerger des thématiques fortes, propres au parcours personnel du cinéaste et résultant du regard sombre qu'il porte sur le monde. Ses œuvres sont hantées par des personnages au comportement souvent critiquable, c'est un euphémisme, sauvé parfois par la foi, parfois par une femme. Chez Kim Ki-duk, la violence surgit toujours sans être stylisée, de façon abrupte, crue, dérangeante, comme faisant partie de la nature humaine. Et si les femmes souffrent souvent dans ces films, violentées, rejetées, battues, prostituées, elles sont aussi érigées en saintes ou en martyrs, une posture qui donne à sa filmographie un aspect tout à fait ambigu, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Lars von Trier. La foi et la spiritualité, le bouddhisme, la chrétienté également sont souvent présents comme en contrepoids à la folie des hommes. Et la nature également est montrée comme seul échappatoire à la société malade. Kim Ki-duk s'avère d'ailleurs être l'un des rares cinéastes coréens qui propose dans ses films une véritable dimension sociale sans glisser ni vers la comédie ni vers le thriller, comme le ferait par exemple Im Sang-soo ou Bong Joon-ho.
불안해. 갑자기 사라져버릴 것 같아.
왜 그렇게 잔인했어? 널 용서할 수가 없어.
En 2005, c'est La Consécration avec Locataire, un drame sublime, quasiment muet, triangle amoureux entre un squatteur d'appartement, une femme battue et son mari violent. Trop heureux de surfer sur le succès de celui qui est alors le cinéaste coréen le plus connu en France, les distributeurs sortiront à la suite ses films au titre aussi succinct qu'énigmatique, L'Arc, Time, Souffle, Dreams. Kim Ki-duk, dont le rythme très prolifique lui faisait réaliser parfois deux ou trois films par an, connaît à partir de 2009 une baisse de régime. Lors de sa sélection à Cannes en 2011 avec Arirang, on sent une certaine neurasthénie chez l'auteur qui se met pour la première fois en scène dans cet étrange métafilm. Après avoir traversé plusieurs années de dépression, ce qui ne l'empêchera pas de connaître en 2012 son ultime consécration avec un Lion d'or à Venise pour Pietà. Mais le cinéaste est ensuite accusé d'agression sexuelle par plusieurs actrices avec qui il a auparavant travaillé. Ces multiples accusations créeront un phénomène MeToo au pays du matin calme, qui était jusque-là très peu concerné par ce tournant dans l'industrie cinématographique. Kim Ki-duk, contrairement aux personnages de ses films, n'aura pas le temps de trouver la rédemption. Fuyant son pays, il tourne ensuite au Kazakhstan, puis part en Lettonie avec l'intention de s'y installer et d'y travailler. Mais il y décédera finalement le 11 décembre 2020.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
La semaine prochaine, ce sera la dernière émission de l'année 2020. De quoi on va parler?
Et moi, je vais vous parler d'un film qui sort en Blu-ray, un rattrapage de l'été, film assez étonnant, Malmkrog.
Qui dure bien 3h30. Et toi, Guillaume?
Eh bien, moi, je vais rester sur la thématique de la pandémie avec Songbird d'Adam Mason et produit par Michael Bay.
Puis, on aura l'occasion de jouer à un blind test et de parler eh bien, des trois films de 2020 que l'on conserve en mémoire.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. Non, c'est... Pardon. Voilà. Voilà. Oh, écoutez.
C'est très délicat de votre part.
This is Cinerama. 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 Cinerama.